Édouard Chouret, les grands initiés, Krishna. Suite. Chapitre 5. Initiation. Cependant, le roi Kansa, ayant appris que sa sœur Devaki avait vécu chez les Anachorètes et n'ayant pu la découvrir, se mit à les persécuter et à les chasser, comme des bêtes fauves. Ils durent se réfugier dans la partie la plus reculée et la plus sauvage de la forêt. Alors, leur chef, le vieux Vasishtha, quoique âgé de 100 ans, se mit en route pour parler au roi de Madura. Les gardes virent avec étonnement un vieillard aveugle, guidé par une gazelle qui se tenait en laisse, apparaître aux portes du palais. Frappés de respect pour le rishi, ils le laissèrent passer. Vasishtha s'approcha du trône où Kansa était assis à côté de Nisumba et lui dit « Kansa, roi de Madura, malheur à toi, fils du taureau qui persécute les solitaires de la forêt sainte. Malheur à toi, fille du serpent, qui lui souffle la haine. Le jour de votre châtiment approche. Sachez que le fils de Devaki est vivant. Il viendra couvert d'une armure d'écailles infrangibles et il te chassera de ton trône dans l'ignominie. Maintenant, tremblez et vivez dans la peur. C'est le châtiment que les Devas vous assignent. » Les guerriers, les gardes, les serviteurs s'étaient prosternés devant le saint centenaire qui ressortit, conduit par sa gazelle, sans que personne n'eût osé le toucher. Mais, à partir de ce jour, Kansa et Nisumba songèrent au moyen de faire périr secrètement le roi des Anachorètes. Devaki était morte, et nul, hormis Vasishtha, ne savait que Krishna était son fils. Cependant, le bruit de ses exploits avait retenti aux oreilles du roi. Kansa pensa « J'ai besoin d'un homme fort pour me défendre. Celui qui a tué le grand serpent de Kalayani n'aura pas peur de l'anachorète. » Ayant pensé cela, Kansa fit dire au patriarche Nanda « Envoie-moi le jeune héros Krishna pour que j'en fasse le conducteur de mon char et mon premier conseiller. » Nanda fit part à Krishna de l'ordre du roi et Krishna répondit « J'irai. » À part lui, il pensait « Le roi de Madura, serait-il celui qui ne change jamais ? Par lui, je saurai où est ma mère. » Kansa, voyant la force, l'adresse et l'intelligence de Krishna, prit plaisir à lui et lui confia la garde de son royaume. Cependant, Nisumba, en voyant le héros du mot héros, tressaillit dans sa chair d'un désir impur, et son esprit subtil trama un projet ténébreux à la lueur d'une pensée criminelle. À l'insu du roi, elle fit appeler le conducteur du char dans son gynécée. Magicienne, elle possédait l'art de se rajeunir momentanément par des filtres puissants. Le fils de Devaki trouva Nisumba au sein d'ébène presque nue sur un lit de pourpre. Des anneaux d'or serraient ses chevilles et ses bras. Un diadème de pierres précieuses étincelait sur sa tête. À ses pieds brûlait une cassolette de cuivre, d'où s'échappait un nuage de parfum. « Krishna, dit la fille du roi des serpents, ton front est plus calme que la neige de l'Himava, et ton cœur est comme la pointe de la foudre. Dans ton innocence, tu resplendis au-dessus des rois de la terre. Ici, personne ne t'a reconnu, tu t'ignores toi-même. Moi seul, je sais qui tu es. Les Devas ont fait de toi le maître des hommes. Moi seul, je puis faire de toi le maître du monde. Veux-tu ? Si c'est Mahaveda qui parle par ta bouche, dit Krishna d'un air grave, tu me diras où est ma mère et où je trouverai le grand vieillard qui m'a parlé sous les cèdres du mont Meru. Ta mère, dit Nisumba avec un sourire dédaigneux, ce n'est certes pas moi qui te l'apprendrai. Quant à ton vieillard, je ne le connais pas. Insensé, tu poursuis des songes et tu ne vois pas les trésors de la terre que je t'offre. Il y a des rois qui portent la couronne et qui ne sont pas des rois. Il y a des fils de pâtres qui portent la royauté sur leur front et qui ne connaissent pas leur force. Tu es fort, tu es jeune, tu es beau. Les cœurs sont à toi. Tue le roi dans son sommeil et je mettrai la couronne sur ta tête et tu seras le maître du monde. Car je t'aime et tu m'es prédestiné. Je le veux, je l'ordonne. En parlant ainsi, la reine s'était soulevée, impérieuse, fascinante, terrible comme un beau serpent. Dressée sur sa couche, elle lança de ses yeux noirs un jet de flamme si sombre dans les yeux limpides de Krishna qu'il frémit, épouvanté. Dans ce regard, l'enfer lui apparut. Il vit le gouffre du temple de Kali, déesse du désir et de la mort, et des serpents qui s'y tordaient comme dans une agonie éternelle. Alors, soudainement, les yeux de Krishna parurent comme deux glaives. Ils transpercèrent la reine de part en part, et le héros du mont Meru s'écria « Je suis fidèle au roi qui m'a pris pour défenseur, mais toi, sache que tu mourras. » Nisumba poussa un cri perçant et roula sur sa couche, en mordant la pourpre. Toute sa jeunesse factice s'était évanouie. Elle était redevenue vieille et ridée. Krishna, la laissant à sa colère, sortit. Persécuté nuit et jour par les paroles de l'anachorète, le roi de Madura dit à son conducteur de char « Depuis que l'ennemi a mis le pied dans mon palais, je ne dors plus en paix sur mon trône. Un magicien infernal du nom de Vasishta, qui vit dans une forêt profonde, est venu me jeter sa malédiction. Depuis, je ne respire plus. Le vieillard va empoisonner mes jours. Mais avec toi qui ne crains rien, je ne le crains pas. Viens avec moi dans la forêt maudite. Un espion qui connaît tous les sentiers nous conduira jusqu'à lui. Dès que tu le verras, cours à lui et frappe-le sans qu'il ait pu dire une parole ou te lancer un regard. Quand il sera blessé mortellement, demande-lui où est le fils de ma sœur Devaki et quel est son nom. La paix de mon royaume dépend de ce mystère. Sois tranquille, répondit Krishna. Je n'ai pas eu peur de Kalayani ni du serpent de Kali. Qui pourrait me faire trembler maintenant? Si puissant que soit cet homme, je saurai ce qu'il te cache. Déguisé en chasseur, le roi et son guide roulaient sur un char aux chevaux fougueux, aux roues rapides. L'espion qui avait exploré la forêt se tenait derrière. On était au début de la saison des pluies. Les rivières s'enflaient. Une végétation de plantes recouvrait les chemins et la ligne blanche des cigognes se montrait sur le dos des nuées. Lorsqu'ils approchèrent de la forêt sacrée, l'horizon s'assombrit, le soleil se voila. L'atmosphère se remplit d'une brume cuivrée. Du ciel orageux, des nuages pendaient comme des troncs sur la chevelure effarée des bois. « Pourquoi, dit Krishna au roi, le ciel s'est-il obscurci tout à coup? Et pourquoi la forêt devient-elle si noire ?»« Je le vois bien, dit le roi de Madura. C'est Vasishta, le méchant solitaire, qui a sombré le ciel et hérisse contre moi la forêt maudite. Mais Krishna, as-tu peur? Que le ciel change de visage et la terre de couleur, je n'ai pas peur. Alors avance. Krishna fouetta les chevaux et le char entra sous l'ombre épaisse des baobabs. Il roula quelque temps d'une vitesse merveilleuse, mais toujours plus sauvage et plus terrible devenait la forêt. Des éclairs jaillirent, le tonnerre gronda. Jamais, dit Krishna, je n'ai vu le ciel si noir, ni les arbres se tordre ainsi. Il est puissant, ton magicien. Krishna, tueur de serpents, héros du mont Meru, as-tu peur? Que la terre tremble et que le ciel s'effondre, je n'ai pas peur. Alors, poursuis. De nouveau, le hardi conducteur fouetta les chevaux et le char reprit sa course. Alors, la tempête devint si effroyable que les arbres géants ployèrent. La forêt secouée mugit comme du hurlement de mille démons. La foudre tomba à côté des voyageurs. Un baobab fracassé barrait route. Les chevaux s'arrêtèrent et la terre trembla. C'est donc un dieu que ton ennemi, dit Krishna, puisque Indra lui-même le protège. Nous touchons au but, dit l'espion du roi. Regarde cette vallée de verdure. Au bout se trouve une cabane misérable. C'est là qu'habite Vasishta, le grand Muni, nourrissant les oiseaux, redouté des fauves et défendu par une gazelle. Mais pas pour une couronne, je ne ferai un pas de plus. À ces mots, le roi de Madura était devenu livide. Il est là, vraiment, derrière ses arbres. Et se cramponnant à Krishna, il chuchota à voix basse, en tremblant de tous ses membres. Vasishta, Vasishta qui médite ma mort est là. Il me voit du fond de sa retraite. Son œil me poursuit. Délivre-moi de lui. Oui, par Mahadeva, dit Krishna, en descendant du char et en sautant par-dessus le tronc du baobab. Je veux voir celui qui te fait trembler ainsi. Le Muni centenaire de Vasishta vivait depuis un an dans cette cabane, cachée au plus profond de la forêt sainte, en attendant la mort. Avant la mort du corps, il était délivré de la prison du corps. Ses yeux étaient éteints, mais il voyait par l'âme. Sa peau percevait à peine le chaud et le froid, mais son esprit vivait dans une unité parfaite avec l'esprit souverain. Il ne voyait plus les choses de ce monde qu'à travers la lumière de Brahma, priant, méditant sans cesse. Un disciple fidèle, parti de l'ermitage, lui apportait tous les jours les grains de riz dont il vivait. La gazelle qui broutait dans sa main l'avertissait en bramant de l'approche des fauves. Alors, il les éloignait en murmurant un mantra et en étendant son bâton de bambou à sept nœuds. Quant aux hommes, quels qu'ils fussent, il les voyait venir par le regard intérieur à plusieurs lieues de distance. Krishna, marchant dans l'allée obscure, se trouva tout à coup en face de Vasishta. Le roi des Anachorètes était assis, les jambes croisées sur une natte, appuyé contre le poteau de sa cabane, dans une paix profonde. De ses yeux d'aveugle sortait une scintillation intérieure de voyant. Dès que Krishna l'eut aperçu, il reconnut le vieillard sublime. Il sentit une commotion de joie. Le respect courba son âme tout entière. Oubliant le roi, son char et son royaume, il plia un genou devant le saint et l'adora. Vasishta semblait le voir, car son corps, appuyé à la cabane, se dressa par une légère oscillation. Il étendit les deux bras pour bénir son hôte, et ses lèvres murmurèrent la syllabe sainte, Om. Cependant, Le roi Kansa, n'entendant pas un cri et ne voyant pas revenir son conducteur, se glissa d'un pas furtif dans l'allée et resta pétrifié d'étonnement en apercevant Krishna agenouillé devant le saint Anachorète. Celui-ci dirigea sur Kansa ses yeux d'aveugle et, levant son bâton, il dit « Ô roi de Madura, tu viens pour me tuer, salut, car tu vas me délivrer de la misère de ce corps. Tu veux savoir où est le fils de ta sœur Devaki qui doit te détrôner ? Le voici, courbé devant moi et devant Mahadeva, et c'est Krishna, ton propre conducteur. Considère combien tu es insensé et maudit, puisque ton ennemi le plus redoutable est celui-là même. Tu me l'as amené pour que je lui dise qu'il est l'enfant prédestiné. Tremble, tu es perdu, car ton âme infernale va être la proie des lions. » Kansa, stupéfié, écoutait. Il n'osait regarder le vieillard en face. Blême de rage et voyant Krishna toujours à genoux, il prit son arc et, le tendant de toute sa force, décocha une flèche contre le fils de Devaki. Mais le bras avait tremblé, le trait dévia et la flèche alla s'enfoncer dans la poitrine de Vasishtha qui, les bras en croix, semblait l'attendre comme en extase. Un cri partit, un cri terrible, non pas de la poitrine du vieillard, mais de celle de Krishna. Il avait entendu la flèche vibrer à son oreille. Il l'avait vue dans la chair du saint, et il lui semblait qu'elle s'était enfoncée dans son propre cœur, tellement son âme, à ce moment, s'était identifiée avec celle du Rishi. Avec cette flèche aiguë, toute la douleur du monde transperça l'âme de Krishna, la déchira jusqu'en ses profondeurs. Cependant, Vasishtha, la flèche dans sa poitrine, sans changer de posture, agitait encore les lèvres. Il murmura « Fils de Mahadeva, pourquoi pousser ce cri ? Tuer est vain. La flèche ne peut atteindre l'âme et la victime est le vainqueur de l'assassin. Triomphe, Krishna. Le destin s'accomplit. Je retourne à celui qui ne change jamais. Que Brahma reçoive mon âme. Mais toi, son élu, sauveur du monde, debout, Krishna, Krishna. » Et Krishna se dressa, la main à son épée. Il voulut se retourner contre le roi, mais Kansa s'était enfui. Alors, une lueur fendit le ciel noir et Krishna tomba à terre, foudroyé sous une lumière éclatante. Tandis que son corps restait insensible, son âme, unie à celle du vieillard par la puissance de la sympathie, monta dans les espaces. La terre, avec ses fleuves, ses mers, ses continents, disparut comme une boule noire, et tous deux s'élevèrent au septième ciel des Devas, vers le Père des êtres, le Soleil des Soleils, Mahadeva, l'intelligence divine. Ils plongèrent dans un océan de lumière qui s'ouvrait devant eux. Au centre de la sphère, Krishna vit Devaki, sa mère radieuse, sa mère glorifiée, qui, d'un sourire ineffable, lui tendait les bras, l'attirait sur son sein. Des milliers de Devas venaient s'abreuver dans le rayonnement de la Vierge Mère comme en un foyer incandescent. Et Krishna se sentit résorbé dans un regard d'amour de Devaki. Alors, du cœur de la Mère radieuse, son être rayonna à travers tous les cieux. Il sentit qu'il était le Fils, l'âme divine de tous les êtres, la parole de vie, le Verbe créateur. Supérieur à la vie universelle, il la pénétrait cependant par l'essence de la douleur par le feu de la prière et la félicité d'un divin sacrifice. Quand Krishna revint à lui, le tonnerre roulait encore dans le ciel. La forêt était sombre et des torrents de pluie tombaient sur la cabane. Une gazelle léchait le sang sur le corps de l'ascète transpercé. Le vieillard sublime n'était plus qu'un cadavre. Mais Krishna se leva comme ressuscité. Un abîme le séparait du monde et de ses vaines apparences. Il avait vécu la grande vérité et compris sa mission. Quant au roi Kansa, plein d'épouvante, il fuyait sur son char, chassé par la tempête, et ses chevaux se cabraient comme fouettés par 1000 démons. 6. La doctrine des initiés. Krishna fut salué par les anachorètes comme le successeur attendu et prédestiné de Vasishtha. On célébra la Shraddha ou cérémonie funèbre du saint vieillard dans la forêt sacrée. Et le fils de Devaki reçut le bâton à 7 nœuds, signe du commandement, après avoir accompli le sacrifice du feu, en présence des plus anciens anachorètes, de ceux qui savent par cœur les 3 Védas. Ensuite, Krishna se retira au mont Meru pour y méditer sa doctrine et la voie du salut pour les hommes. Ses méditations et ses austérités durèrent 7 ans. Alors il sentit qu'il avait dompté sa nature terrestre par sa nature divine et qu'il s'était suffisamment identifié avec le soleil de Mahadeva pour mériter le nom de fils de Dieu. Alors seulement, il appela auprès de lui les anachorètes, les jeunes et les anciens, pour leur révéler sa doctrine. Ils trouvèrent Krishna purifié et grandi. Le héros s'était transformé en saint. Il n'avait pas perdu la force des lions, mais il avait gagné la douceur des colombes. Parmi ceux qui accoururent les premiers se trouvait Arjuna, un descendant des rois solaires, l'un des Pandavas détrônés par les Kauravas ou rois lunaires. Le jeune Arjuna était plein de feu, mais prompt à se décourager et à tomber dans le doute. Il s'attacha passionnément à Krishna. Assis sous les cèdres du mont Meru, en face de l'Himavat, Krishna commença à parler à ses disciples des vérités inaccessibles aux hommes qui vivent dans l'esclavage des sens. Il leur enseigna la doctrine de l'âme immortelle, de ses renaissances et de son union mystique avec Dieu. Le corps, disait-il, enveloppe de l'âme qui y fait sa demeure, est une chose finie. Mais l'âme qui l'habite est invisible, impondérable, incorruptible, éternelle. L'homme terrestre est triple comme la divinité qu'il reflète, intelligence, âme et corps. Si l'âme s'unit à l'intelligence, elle atteint sattva, la sagesse et la paix. Si elle demeure incertaine entre l'intelligence et le corps, elle est dominée par raja, la passion, et tourne d'objet en objet, dans un cercle fatal. Si elle s'abandonne au corps, elle tombe dans tama, la déraison, l'ignorance et la mort temporaire. Voilà ce que chaque homme peut observer en lui-même et autour de lui. Mais, demanda Arjuna, quel est le sort de l'âme après la mort? Obéit-elle toujours à la même loi ou peut-elle lui échapper? Elle ne lui échappe jamais, elle lui obéit toujours, répondit Krishna. C'est ici le mystère des renaissances. Comme les profondeurs du ciel s'ouvrent aux rayons des étoiles, ainsi les profondeurs de la vie s'éclairent à la lumière de cette vérité. Quand le corps est dissous, lorsque Sattva, la sagesse, a le dessus, l'âme s'envole dans les régions de ces êtres purs qui ont la connaissance du Très-Haut. Quand le corps éprouve cette dissolution pendant que Raja, la passion, domine, l'âme vient de nouveau habiter parmi ceux qui se sont attachés aux choses de la terre. De même, si le corps est détruit quand Tama, l'ignorance, prédomine, l'âme, obscurcie par la matière, est de nouveau attirée par quelque matrice d'êtres irraisonnables. « Cela est juste, » dit Arjuna. « Mais apprends-nous maintenant ce qui est bien, dans le cours des siècles, de ceux qui ont suivi la sagesse et qui vont habiter après leur mort dans les mondes divins. » L'homme, surpris par la mort dans la dévotion, répondit Krishna, après avoir joui pendant plusieurs siècles des récompenses dues à ses vertus dans les régions supérieures, revient enfin de nouveau habiter un corps dans une famille sainte et respectable. Mais cette sorte de régénération dans cette vie est très difficile à obtenir. L'homme ainsi né de nouveau se trouve, avec le même degré d'application et d'avancement quant à l'entendement, qu'il avait dans son premier corps, et il commence de nouveau à travailler pour se perfectionner en dévotion. Ainsi, dit Arjuna, même les bons sont forcés de renaître et de recommencer la vie du corps. Mais apprends-nous, ô Seigneur de la vie, si pour celui qui poursuit la sagesse, il n'est point de fin aux renaissances éternelles. Écoutez donc, dit Krishna, un très grand et très profond secret, le mystère souverain, sublime et pur. Pour parvenir à la perfection, il faut conquérir la science de l'unité qui est au-dessus de la sagesse. Il faut s'élever à l'être divin qui est au-dessus de l'âme, même de l'intelligence. Or, cet être divin, cet ami sublime, est en chacun de nous, car Dieu réside dans l'intérieur de tout homme, mais peu savent le trouver. Or, voici le chemin du salut. Une fois que tu auras aperçu l'être parfait qui est au-dessus du monde et en toi-même, détermine-toi à abandonner l'ennemi qui prend la forme du désir. Domptez vos passions. Les jouissances que procurent les sens sont comme les matrices des peines à venir. Ne faites pas seulement le bien, mais soyez bon. Que le motif soit dans l'acte et non dans ses fruits. Renoncez aux fruits de vos œuvres, mais que chacune de vos actions soit comme une offrande à l'être suprême. L'homme qui fait le sacrifice de ses désirs et de ses œuvres à l'être d'où procèdent les principes de toutes choses et par qui l'univers a été formé, obtient par ce sacrifice la perfection. Uni spirituellement, il atteint cette sagesse spirituelle qui est au-dessus du culte des offrandes et ressent une félicité divine. Car celui qui trouve en lui-même son bonheur, sa joie, et en lui-même aussi sa lumière, est un avec Dieu. Or, sachez-le, l'âme qui a trouvé Dieu est délivrée de la renaissance et de la mort, de la vieillesse et de la douleur, et boit l'eau de l'immortalité. Ainsi, Krishna expliquait sa doctrine à ses disciples, et par la contemplation intérieure, il les élevait peu à peu aux vérités sublimes qui s'étaient dévoilées à lui-même sous le coup de foudre de sa vision. Lorsqu'il parlait de Mahadeva, sa voix devenait plus grave, ses traits s'illuminaient. Un jour, Arjuna, plein de curiosité et d'audace, lui dit « Fais-nous voir Mahadeva dans sa forme divine. Nos yeux, ne peuvent-ils le contempler ? Alors, Krishna, se levant, commença à parler de l'être qui respire dans tous les êtres, aux 100 000 formes, aux yeux innombrables, aux faces tournées de tous les côtés, et qui cependant les surpasse de toute la hauteur de l'infini, qui, dans son corps immobile et sans bornes, renferme l'univers mouvant avec toutes ses divisions. Si, dans les cieux, éclatait en même temps la splendeur de 1000 soleils, dit Krishna, elle ressemblerait à peine à la splendeur du Tout-Puissant unique. Tandis qu'il parlait ainsi de Mahadeva, tel rayon jaillit des yeux de Krishna que les disciples n'en purent soutenir l'éclat et se prosternèrent à ses pieds. Les cheveux d'Arjuna se dressèrent sur sa tête et se courbant, il dit en joignant les mains, « Maître, tes paroles nous épouvantent et nous ne pouvons soutenir la vue du grand être que tu évoques devant nos yeux. Elle nous foudroie. » Krishna reprit, « Écoutez ce qu'il vous dit par ma bouche. Moi et vous, nous avons eu plusieurs naissances. Les miennes ne sont connues que de moi, mais vous ne connaissez même pas les vôtres. Quoique je ne sois pas par ma nature sujet à naître ou à mourir, et que je sois le maître de toutes les créatures, cependant, comme je commande à ma nature, je me rends visible par ma propre puissance. Et toutes les fois que la vertu décline dans le monde, et que le vice et l'injustice l'emportent, alors je me rends visible. Et ainsi, je me montre d'âge en âge pour le salut du juste, la destruction du méchant et le rétablissement de la vertu. Celui qui connaît, selon la vérité, ma nature et mon œuvre divine, quittant son corps, ne retourne pas à une naissance nouvelle. Il vient à moi. Seigneur, tu es notre maître, tu es le fils de Mahadeva. Je le vois à ta bonté, à ton charme ineffable, plus encore, qu'à ton éclat terrible. Ce n'est pas dans les vertiges de l'infini que les Devas te cherchent et te désirent. C'est sous la forme humaine qu'ils t'aiment et t'adorent. Ni la pénitence, ni les aumônes, ni les Védas, ni le sacrifice ne valent un seul de tes regards. Tu es la vérité. Conduis-nous à la lutte, au combat, à la mort. Où que ce soit, nous te suivrons. Souriant et ravi, les disciples se pressaient autour de Krishna en disant « Comment ne l'avons-nous pas vu plus tôt ? C'est Mahadeva qui parle en toi. » Il répondit « Vos yeux n'étaient pas ouverts. Je vous ai donné le grand secret. Ne le dites qu'à ceux qui peuvent le comprendre. Vous êtes mes élus. Vous voyez le but. La foule ne voit qu'un bout du chemin. Et maintenant, allons prêcher au peuple la voie du salut. »